Chers auditeurs, bonsoir. C'est toute la culture que j'aime sur IDFM Radio. Aujourd'hui, je vais vous parler cinéma. Cinéma avec le cycle Franck Capra au cinéma d'Anguin. Je vais parler théâtre avec Sam Carman pour son seul en scène à la Scala de Paris. Tant pis, c'est moi. Nous allons parler également de la tournée et de la sortie de l'album du chanteur Kali. Et enfin de Technopop avec la sortie également de l'album David Shaw and the Beat. C'est de la technopop avec son album Love Songs. Tout d'abord, parlons cinéma avec Jean-Paul Lançon. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes le chargé de mission cinéma du Centre des Arts d'Anguin. Donc vous vous chargez de la programmation, du fonctionnement de ce cinéma qui a une programmation extrêmement riche, variée, accessible aussi bien pour les familles, les enfants, les cinéphiles. Il y a un ciné-club même, hein, je crois, Jean-Paul Lançon.
Oui, il y en a même plusieurs. Donc là, je comprends qu'on va parler plus précisément de celui sur Capra, mais il y en a également un en fait sur le western que je présente. Et puis on a aussi, on fait venir donc plusieurs intervenants qui sont des critiques, comme Mathieu Macheret par exemple, qui est journaliste cinéma au journal Le Monde. Voilà. Et puis ça, c'est des rendez-vous mensuels, mais plus ponctuellement, on a d'autres intervenants, comme on a eu par exemple Emmanuel Burdeau des Cahiers du Cinéma qui est venu précédemment. Voilà, donc c'est dans l'idée en fait de proposer des séances de cinéma complétées avec un échange, une analyse autour des films.
Alors le mercredi, c'est en ce moment le cycle Franck Capra, immense réalisateur américain à redécouvrir. Certains vous diront, il a eu quand même deux périodes, hein. Il a eu quand même cinq périodes, années 20-30, extrêmement fructueuses, hein. Évidemment New York, Miami, fabuleux. Ça sera le 11 décembre, vous nous donnerez les détails. Voilà, est-ce qu'il a eu vraiment deux périodes, Franck Capra? Une période plus, on va dire, libre, avec des vrais messages, et après-guerre, après 45, une période plus, peut-être, moins ouverte?
Oui, c'est-à-dire que Franck Capra, c'est bon. Pour commencer, c'est vrai que c'est un des plus grands réalisateurs américains, probablement avec John Ford, un des plus importants, un de ceux qui représente peut-être l'Amérique telle qu'elle se rêve en fait dans son idéal. Capra est un enfant d'immigrés italiens, siciliens pour être plus précis, et qui est vraiment venu en bateau. Donc il raconte sa traversée quand il avait 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc il a vécu en fait ce mouvement d'immigration massive vers les États-Unis au tout début du siècle, et il a commencé à Hollywood avec des petits films. Il a commencé dans le burlesque en fait dans les années 20. Il a travaillé notamment avec Harry Langdon, qui est un comique de l'époque, qui est aujourd'hui assez oublié. Mais en tout cas, voilà, il a eu beaucoup de succès en fait comme gagman, c'est-à-dire qu'il écrivait beaucoup les gags en fait de ce genre de film. Donc c'est ce qui caractérise plutôt la période muette. Et puis après, il va se mettre en fait à essayer de faire des films entre guillemets sérieux par rapport à ça. Et effectivement, dans ce cycle, on a décidé de focaliser sur les années 30, qui est quand même sa grande période. Effectivement, après la guerre, en fait, ça va être une sorte de, quand même, de déclin dans sa filmographie, même si La Vie est belle est son film le plus connu et est sorti en 46. Je pense que c'est plutôt les années 30, sans doute, qui sont intéressantes. Et là, effectivement, on a la prochaine séance sera Forbidden, donc Une vie secrète avec Barbara Stanwyck.
Donc mercredi, ça, là, dans trois jours, mercredi 6 novembre.
Tout à fait, à 20h. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle de plusieurs périodes dans sa carrière, là, on est dans une période, en fait, où il n'est pas encore devenu le Capra extrêmement célèbre avec ses comédies, comme vous citiez New York, Miami ou Monsieur Smith au Sénat. On est dans une période qui s'appelle le pré-code aux États-Unis. Ça dure quelques années, on va dire, au début du parlant, jusqu'en 1933-34, pendant laquelle il n'y a pas encore le code de censure, qui s'appelait le code ICE, qui était mis en place. Et ce qui faisait qu'on avait des films, en fait, qui abordaient des sujets de société, et qui se permettaient de dire des choses, en fait, qui n'étaient pas encore tout à fait policées, si vous voulez. Et donc, on a passé donc en octobre la Femme au miracle, par exemple. Et ce sont voilà des films, en fait, qui sont tout à fait étonnants dans la liberté de ton. Et Forbidden, lui, est plus du côté du mélodrame. Voilà, il a commencé en fait au niveau du pré-code par développer ce genre-là, quoi.
Un mot sur le résumé, peut-être le pitch du film Forbidden.
Oui,
1932.
Hein. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est un film avec Barbara Stanwyck qui est devenue une immense star, et c'est Frank Capra d'ailleurs qui l'a découvert. Donc c'est ses premiers films, ses premiers grands rôles. Elle joue avec Adolphe Manjou aussi, qui était un grand acteur français expatrié à Hollywood. Et donc ça raconte l'histoire d'une bibliothécaire qui n'en peut plus de sa vie et qui décide de sortir de son milieu et qui rencontre donc un politicien joué par Adolphe Manjou dont elle tombe amoureuse. Et le mélodrame se noue autour du fait que Adolphe Manjou joue le personnage politicien est marié et que leur histoire effectivement ne peut pas se dérouler dans voilà, leur histoire d'amour en fait est impossible. Donc voilà, le film tient autour de ça et aussi sur le, comme toujours chez Capra, sur ces couples en fait qui se forment et qui sont toujours mis en danger en fait de séparation et qui entraînent aussi souvent une forme de désespoir, quelque chose de très très noir en fait qui peut apparaître dans ces films et qui est toujours en général par la suite en tout cas compensé par des sortes de miracles. Ça on pourra développer un petit peu en fait sur les autres films, mais c'est pour ça que le cycle s'appelle le miracle Capra, c'est parce que en fait dans ces films il y a toujours un final en fait qui permet de réconcilier les choses et qui s'étend bien au-delà du couple, hein, de la société.
Ce film-là, mercredi à 20h, sera suivi d'une conférence.
Oui.
Jean-Paul Lançon.
Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est pas simplement un ciné-club avec, on va dire, un échange avec le public, questions-réponses. C'est qu'il y a vraiment l'idée que la personne qui intervient, donc qui s'appelle Charlotte Garçon et qui nous accompagne depuis plusieurs années, est donc une critique de cinéma qui travaille encore d'ailleurs au Cahier du Cinéma. Elle est actuellement rédactrice en chef adjointe, mais ça fait voilà, elle a été rédactrice aussi au début des années 2000. Elle fait beaucoup d'interventions en salle. Et l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que elle apporte aussi un éclairage, une analyse, en fait, sur le film, d'apporter des éléments de compréhension, de contextualisation, et ensuite, effectivement, d'engager une discussion avec la salle pour aller plus loin dans la découverte du film. Donc, on a, en général, voilà, entre trois quarts d'heure, parfois une heure, en fait, de conférences et d'échanges avec la salle à la suite du film.
Toujours dans le cycle Capra, vous présentez le fameux Oscarisé, 5 Oscars, New York, Miami, ça ce sera un peu plus tard, hein. Vous pourrez revenir pour en reparler, mais enfin, ouais. On informe quand même nos auditeurs, ça sera le mercredi 11 décembre à 20h. Et le samedi 21 décembre. Alors, ce film, est-ce qu'on peut le considérer comme un des chefs-d'œuvre de Capra ?
Oui, tout à fait. C'est un des exemples les plus réussis de ce qu'on a appelé la screwball comédie à l'époque. C'est la comédie loufoque, on pourrait traduire en français, et qui donc raconte la rencontre entre une jeune héritière richissime et puis qui s'évade un peu de son cercle familial et puis qui rencontre dans un bus un jeune journaliste qui est joué par Clark Gable et donc il y a une relation d'amour en fait qui se noue, très conflictuelle et très drôle, mais c'est aussi un film très intéressant parce que effectivement il met aussi en jeu les conflits de classe, hein, les différences de classe aux États-Unis, c'est toujours d'actualité.
Mm-hmm. Alors justement, on est on est à 2 jours, c'est ça, 2-3 jours des élections américaines. Vous présentez d'ailleurs un cycle, Jean-Paul Lançon, un cycle de documentaires américains de Frédéric Wiseman. Il était une fois l'Amérique, justement, c'est une rétrospective autour de ces 3 films documentaires sur les questions sociales des années 1930, je pense.
70
plutôt, ouais, d'accord. Ouais. Sur la police, la santé, la justice. Donc ces documentaires sont alors diffusés à certaines dates. Hein. Vous en avez un, par exemple, le samedi 16 novembre à 16h. Ouais. C'est le samedi, là. Le 23, le 20, le 27. Ils sont, c'est quand même sur des questions assez difficiles, hein. Ils sont noirs et blancs.
Oui, tout à fait. Alors, Frédéric Wiseman, effectivement, c'est peut-être un des plus grands documentaristes américains, qui a commencé à la toute fin des années 60. Et donc là, toute son œuvre, en fait, est en train d'être restaurée. Et il y a actuellement une rétrospective intégrale au centre Pompidou, d'ailleurs, où il va être présent. Il y aura tout un tas d'échanges, enfin voilà, de conférences, de projections. Et puis il y a un distributeur donc qui dans ce cadre-là ressort ces 3 films. Mais il continue à faire des films, hein, Frédéric Wiseman, récemment, et il est connu aussi pour faire des films très longs. Mais enfin, en l'occurrence, là, on est sur des durées au début un peu plus raisonnables pour des films classique, hein, on est sur voilà 1h30, 2h. Ce qui le caractérise, c'est que c'est un cinéaste en fait qui va, si vous voulez, s'intéresser beaucoup aux institutions. Donc, il va aller soit dans des écoles, là effectivement, Law and Order, ça va être la police, Hospital, ça va être effectivement l'hôpital, Juvenile Court, c'est en fait le tribunal en fait pour les
pour
adolescents.
Les enfants de Memphis, ouais, Tennessee.
Voilà. Tout à fait. Donc, et l'idée, en fait, c'est qu'à chaque fois, il va procéder par immersion, en fait, dans ces institutions, et tout simplement observer et filmer en direct ce qui se passe. Et il a une technique en fait qui consiste à très peu préparer, c'est-à-dire qu'en fait le film c'est un peu le c'est comme si c'était le repérage, si vous voulez, c'est qu'il y a pas de préparation, et donc il filme beaucoup et il arrive en fait, si vous voulez, à rendre compte de comment ça fonctionne finalement dans ces institutions, et de dégager de ça en fait une grande humanité, parce qu'il y a des portraits en fait de personnages finalement qui apparaissent, et il est pas du tout dans le jugement, vous voyez, c'est vraiment une l'idée en fait de rendre compte, voilà, de comment les gens vivent en fait et sont confrontés à l'institution, et même les gens qui travaillent dans l'institution, comment ils vivent leur métier, et avec tous les conflits, les paradoxes que ça implique. Et ça peut donner des films très durs, évidemment, quand on voit Hospital, ce qui se passe à l'hôpital ou au palais de justice. Mais en même temps, il y a une très très grande humanité, en fait, qui se dégage de ces films, une grande générosité de regard.
Ils ne portent pas forcément un regard critique.
Non, puisque en fait ça c'est au spectateur de le construire finalement, ça donne à penser, à réfléchir au spectateur, ça l'oblige finalement à lui se positionner par rapport à ce qu'il voit. C'est pas, voilà, il y a pas d'engagement de ce point de vue-là, de point de vue moral a priori du cinéaste, quoi.
Donc je rappelle, c'est au Centre des Arts d'Anguin au mois de novembre, cycle Il était une fois l'Amérique. On fait une pause musicale, Jean-Paul Lançon, et on vous retrouve tout de suite après pour continuer sur le cinéma.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à fun qui sonne et personne qui ne décroche.
Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin.
C'est quand le bonheur,
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 c'est quand le bonheur.
Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez,
je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabre. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds.
C'est quand le bonheur,
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 c'est quand le bonheur. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche.
Car que mieux que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne, décidément. C'est pas facile tous les jours.
C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur.
Vous êtes bien sur Radio IDFM avec toute la culture que j'aime. On reprend avec Jean-Paul Lançon qui va continuer à nous parler cinéma, cycle, ciné-club, cycle sur le western au CDA d'Anguin. On vient d'entendre Bohemian Rhapsody hein, de Queen. Jean-Paul Lançon, alors j'ai vu qu'il y avait également un cycle western, hein, donc mercredi 13 novembre, Johnny Guitar. Décidément, on est très très américain pour ce mois de novembre.
C'est vrai, oui, on a fait des cycles par le passé qui s'intéressaient aussi au cinéma français. Voilà, bon là, ça tombe comme ça. Effectivement, par rapport aux élections, c'est intéressant. Et le western, oui, c'est toujours évidemment considéré comme le genre américain par excellence, puisqu'il s'intéresse à finalement à cette période qui a été racontée, réécrite, revisitée comme étant quelque chose qui a produit l'Amérique moderne. Et ce qui m'intéressait en fait moi dans ce cycle, c'était si vous voulez de, alors on peut pas dans un cycle de 10 films, là il y a un film par mois jusqu'en juin, on peut pas évidemment rendre compte d'un genre qui comporte peut-être 10 000 films, enfin c'est très difficile à quantifier. Mais l'idée voilà, c'était de prendre quelques exemples de western et puis aussi surtout d'essayer de sortir un peu des sentiers battus quoi, de pas montrer que des très grands classiques et de montrer un peu des films des westerns qui sont un peu différents, qui nous sortent peut-être un peu des clichés, qui nous montrent par exemple je pense à Johnny Guitar qu'on va montrer donc le 13 novembre
mercredi, bientôt,
qui est un western donc de 1954 avec John Crawford et qui est probablement un des premier western à avoir pour personnage principal une héroïne qui est donc une propriétaire de saloon et c'est tout à fait inédit en fait et même j'ai envie de dire jusqu'à récemment en fait c'est un cas assez unique dans l'histoire du western. Et puis on va aussi aller visiter un petit peu le western italien et même dans ce cadre encore une fois j'ai décidé en fait d'éviter finalement ce que les gens connaissent le mieux, c'est-à-dire les films de Sergio Leone. Et puis de proposer donc dans le western italien qui est lui aussi finalement très très vaste et peut-être pas très connu un exemple, un film qui s'appelle El Chuncho par exemple de Damiano Damiani qui est un ce qu'on appelle un western Zapata, c'est-à-dire un western qui s'intéresse à la révolution mexicaine et donc qui encore une fois puisqu'on parle quand même un peu politique d'une certaine manière par rapport aux États-Unis qui est un ce qu'on appelle un pour aller vite un western de gauche si on veut, c'est-à-dire qu'en fait c'est cette période où le toute une partie du western en fait s'intéresse métaphore à la question de l'impérialisme américain puisqu'on est en 1967. Donc on est en période de voilà post décolonisation et puis ingérence américaine dans les pays du continent sud-américain. Donc et puis il y aura pour ce qui est du western italien, on aura aussi Keoma qui est un exemple de cinéma bis, enfin c'est-à-dire de western italien dans ce qu'il a de plus exubérant en fait par rapport à ceux que je citais par exemple de Sergio Leone. Donc des découvertes comme ça, des films assez rares. Keoma, c'est un film que vous ne verrez jamais en salle, hein. C'est un film qu'on peut voir en vidéo évidemment, mais l'idée c'est aussi de les donner à voir sur grand écran puisqu'on a quand même une très belle salle de 300 places avec un très grand écran, donc des conditions de visionnage qui sont assez agréables.
Il sera à quelle date ce film?
Alors Keoma, ça sera le 26 mars.
Oui, on a
et
le temps.
Et puis voilà, tout à fait. Et puis après, on aura aussi des films de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. Alors le Nouvel Hollywood, c'est vrai qu'il est relativement connu aujourd'hui avec des noms comme Coppola ou Scorsese, De Palma, vous voyez. Donc mais là, on va essayer de s'intéresser aussi à des films qui sont peut-être moins connus. Je pense à Juge hors la loi, qui est un film de John Huston avec Paul Newman et qui s'intéresse à un personnage de légende du western qui est le juge Roy Bean en fait voilà qui était un personnage de juge et shérif assez truculent, une espèce de canaille si vous voulez, mais un film qui le rend très très sympathique et qui questionne beaucoup justement la manière dont la loi s'est instaurée dans l'Ouest américain à cette période.
Jean-Paul Lançon, donc vous êtes chargé de mission hein, au CDA Cinéma Enghien. Alors est-ce qu'il y a justement des abonnements? Comment est-ce que le public? Je crois que vous avez des cartes, hein, c'est ça, la carte du CDA, 6 entrées pour 18 euros.
Oui, c'est ça. On a une politique tarifaire qui me semble très très avantageuse. En fait, on l'a tarif plein à 6 euros, réduit à 4 euros, et effectivement des solutions d'abonnement tout à fait libres, enfin pas nominatives, etc., qui ramènent la place à 3 euros.
Donc, très bien. Alors vous avez également votre, c'est pas vraiment un cycle, hein, mais c'est une appellation, Actua Ciné. Alors là, c'est plutôt des films tout au long de l'année. C'est ça, on peut retrouver, par exemple, je vois demain, enfin après-demain, pardon, dimanche 3, vous avez Mégalopolis, hein, à 16h30, film de Coppola de 2024. Vous avez également des films enfants?
Oui, on a une programmation destinée au jeune public, donc qui est plutôt donc le mercredi, on a 10h, 14h, 16h, et puis le samedi. Si je peux me permettre, juste puisque vous citiez Mégalopolis, alors c'est vrai que les films d'actualité, nous on les passe un petit peu en décalage, puisqu'on a on est un cinéma de continuité en fait là-dessus, mais c'est un film très important, et encore une fois pour ramener le sujet politique, puisque c'est aussi un film politique qui est une sorte d'allégorie en fait sur le sur New York, sur les États-Unis, en projetant en fait dans le futur un New York qui s'appelle la Nouvelle Rome. Donc on voit tout de suite effectivement de quoi ça parle, et ça renvoie effectivement, ça questionne aussi l'avenir des États-Unis, la question du populisme, puisqu'on évoquait les élections avec Donald Trump. Et c'est un film qui je trouve est très important, parce que, alors Coppola, je l'ai cité tout à l'heure, puisqu'il faisait partie de ces cinéastes un peu mythiques du Nouvel Hollywood, et puis bon, réalisateur du Parrain, Apocalypse Now et tant d'autres grands films, mais c'est un cinéaste qui est entre guillemets en fin de carrière, mais qui a misé gros sur ce film. Il a dépensé son argent personnel, il s'est endetté, il a eu une énorme ambition, et il a fait un film qui est tout à fait étonnant, complètement en dehors, si vous voulez, des canons esthétiques actuels. Il a pris beaucoup de risques, et il fait du cinéma, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'assister à un film de metteur en scène qui cherche, qui propose des choses, des idées, et qui aussi, effectivement, si vous voulez, politiquement, qui essaie de sortir, si vous voulez, de ce que moi je trouve un peu désolant dans, parfois du point de vue en tout cas politique, dans la production de gros films américains hollywoodiens actuels. Là, on parle des Marvel, de ce genre de choses, qui sont des films intéressants en soi, hein, c'est pas la question, où je peux citer aussi le Dune, etc., qui sont des films très impressionnants, mais qui effectivement ne prennent pas tellement en charge, ne pensent pas tellement le devenir politique ou social de leur pays. Et ce film-là propose quelque chose d'utopique, mais de que je trouve d'assez positif et aussi progressiste, hein, finalement. Et ça se fait assez rare, en fait, si vous voulez, dans la production hollywoodienne actuelle.
Donc c'est Mégalopolis de Francis Ford, voilà. Coppola, film de 2024, et qui sera donc projeté après-demain, hein, dimanche 3 novembre à 16h30. Alors le pitch, c'est un architecte, hein, qui veut reconstruire la ville de New York comme une utopie, vous en parliez, Jean-Paul Lançon, après une catastrophe dévastatrice. Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Lançon de nous avoir donné tous ces éclairages sur vos programmes de novembre. On espère vous recevoir à la radio régulièrement, hein, pour parler justement de tous ces programmes.
Alors je peux juste ajouter que le programme, vous pouvez le consulter, hein, sur le site internet, c'est facilement accessible. Donc voilà, il y a les programmes papier évidemment, mais voilà, on est sur les réseaux, on est présent, donc c'est voilà, on peut se tenir au courant assez facilement de l'actualité cinéma.
Merci voilà. Beaucoup.
Merci
à vous.
Bientôt.
Au revoir.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Je reçois Sam Karman, célèbre acteur, réalisateur. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de votre seul en scène, Tant pis, c'est moi, à la Scala jusqu'à fin décembre. Alors, c'est un spectacle autobiographique. Vous racontez la vie de votre mère, la vôtre. Vous révélez un secret de famille. L'histoire commence dans les années 20, en Algérie, avec votre mère, puis se poursuit en Égypte dans les années 50, puis en France. Sam Karman, on vous connaît pour toutes vos apparitions, enfin vos rôles au cinéma, télé, séries, au théâtre, plutôt côté fiction. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire finalement et de jouer le récit de votre vie ou celle de votre famille?
Bah, écoutez, il y a un moment donné, je me suis aperçu que il fallait que le fil, les éléments d'une vie méritaient d'être, comment dire, de faire sens. Et de les mettre bout à bout, de les mettre en perspective, de se demander, parce que on est tous dans nos vies le résultat de notre éducation, mais aussi de nos choix. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que nos choix prennent le pas sur notre éducation? Qu'est-ce qui fait que l'inné, l'acquis, ce qu'on nous a transmis, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai passé une bonne partie de ma vie à ne pas relier, vous en parliez dans votre présentation, de ce secret de famille, je n'ai pas tout de suite relié au pourquoi de ma vocation d'acteur, et ce spectacle en fait fait le lien. Je pense, grâce à Denis Lachaud avec qui je l'ai écrit, il a été vraiment mon regard extérieur. Il m'a permis, lui, de mettre justement tous ces éléments en perspective et de tirer le fil narratif qui traverse toute ma vie pour m'emmener là où je suis.
Oui, alors je le disais tout à l'heure, beaucoup d'actualité pour vous en télé, hein, en cinéma. Rappelons la fameuse série Navarro jusqu'en 92, vos débuts dans Le Grand Pardon en 1980, votre Oscar en 92 pour la réalisation de votre court-métrage Omnibus, vos rôles dans Cuisine et Dépendance avec Jean-Pierre Bacri, votre réalisation Kennedy et moi en 99 avec Jean-Pierre Bacri, etc. Comment ça se passe là pour Tant pis c'est moi, vous parlez avec l'auteur Denis Lachaud, vous commencez à écrire et puis oui, vous vous dites
c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de temps passé à m'interviewer, on va dire. Voilà, il enregistre tout ce que je lui raconte et surtout il est un partenaire de dialogue et il tire le fil de mes confessions et au bout d'un moment il me fait comprendre que moi j'étais parti pour raconter l'histoire de mes parents, de ma mère particulièrement, cette histoire très romanesque qu'on découvre dans le spectacle, mais au-delà de ça, le résultat de cet amour romanesque, c'est moi. et il a levé le voile, il m'a permis de lever le voile sur toute cette histoire qui m'a construite plus que je ne le pensais.
Alors on raconte un peu l'histoire sans tout révéler, hein, l'histoire ça commence par votre mère, je disais tout à l'heure, hein, dans les années 1920 en Algérie, puis vous naissez en Égypte, hein, c'est ça?
Oui, alors elle va en Égypte en 40, hein, à partir de 41, elle est en Égypte, et voilà, en fait, on va dire que pour échapper un petit peu à son carcan familial, qui était quand même très rigoureux, parce qu'elle était fille de diplomate, dans une famille très... C'est rigoriste, on va dire, et elle avait envie de liberté, et donc, elle s'est affranchie en épousant un garçon assez rapidement en Égypte. C'est pas franchement un mariage d'amour, on va dire, c'est un mariage qui lui permet la liberté, croit-elle. Et en fait, elle va troquer une absence de liberté de ses parents pour une autre absence de liberté qui va être plus culturelle, celle-là.
C'est voilà. Ça.
Et puis, à un moment donné, elle va rencontrer l'amour de sa vie. Voilà.
Voilà, Monsieur Karman, d'ailleurs. Léopold Karman, qui est le médecin.
Voilà, c'est ça. Un médecin.
Ouais. Très bien.
Le médecin de ses enfants.
Voilà. Et alors, vous faites votre vie en Égypte, hein?
Oui, donc je nais en Égypte, mais j'en ai aucun souvenir, parce qu'en fait, je quitte l'Égypte quand j'ai 3 ans, et donc c'est vraiment en France que je vais faire ma vie. Et puis je vais grandir avec différentes identités. Et c'est aussi, ça parle de ça, ce spectacle. Je suis au carrefour des trois religions monothéistes, parce que ma mère est catholique croyante. Elle est mariée avec un Égyptien. Et puis elle refait sa vie avec un nouveau mari. Voilà, ça sera le docteur Kerman.
Oui.
Donc je raconte tout ça, je raconte comment moi je grandis au milieu de tout ça. Et puis effectivement, le docteur Kerman meurt. Et j'ai 17 ans, 18 ans, et je me dirige vers des études supérieures. Et je commence des études de médecine. Et à partir de là, les choses commencent à faire sens quand je rencontre le théâtre. En fait, je m'aperçois que le théâtre me permet d'être vraiment moi-même. Alors évidemment, là, je parle un petit peu par énigme. Le spectacle, lui, est beaucoup plus clair, mais j'ai pas envie de spoiler.
On
sent que voilà, il y a des énigmes dans ce spectacle qui sont révélées. Je pense que c'est un spectacle où beaucoup de gens sur des histoires très personnelles comme ça peuvent se projeter. J'ai des témoignages très forts des gens du public qui me disent « c'est marrant, c'est fou, votre histoire me rappelle la mienne » ou en tous les cas, à un moment donné de votre histoire, je raccroche mon histoire. C'est comme si dans les familles, c'était vraiment une source d'inspiration romanesque. Chaque histoire de famille est en soi une histoire complète.
Oui. Sam Kerman, je voudrais parler un peu de... On parle d'abord de la mise en scène ou de votre carrière. Parlons un peu de la mise en scène.
Oui.
Mise en scène, Anne Poirier-Busson. Alors, sur scène, deux mannequins couture, une valise, un porte-manteau. Très sobre, et pourtant on est avec vous, on est en Égypte, on est en France. Alors qu'évoque-t-il finalement ces portants, j'allais dire, ces
mouvements? Les fantômes, moi je voulais ce spectacle, oui c'est vrai que Anne Poirier-Busson a été mon alter ego, mon accompagnatrice artistique, mais c'est vrai que dans ce spectacle je voulais des choses très simples. Je voulais des odeurs de l'Égypte. Je voulais, et ça c'est les sons, par exemple, tous les sons qu'il y a dans le spectacle et la musique magnifique de Pierre Adnaud aussi. Je voulais que ça ponctue et que ça soit simplement une évocation musicale, comme ça, une petite bouffée de son, ou bien important un mannequin et tout d'un coup, bon, évidemment, un petit mannequin à l'enfance, un mannequin adulte, ma mère, un porte-manteau avec un chapeau et un impair. C'est un personnage, et etc., etc. Oui, c'est vrai. C'est comme si ce sont des signes non réalistes, comme ça, des signes poétiques, mais qui trouvent que je fais vivre, parce que c'est un père, c'est aussi le père, mais ça peut être aussi la cape de Don César de Bazan. Ça peut être aussi un linceul, ça peut être aussi tellement de choses. Voilà.
Oui, d'ailleurs, le titre du spectacle, Tant pis, oui. C'est moi, je crois, vient d'une citation d'Henri Blesse, non?
Oui, absolument. On connaît très bien Bon appétit, messieurs. C'est le monologue d'Henri Blesse. Et par contre, le monologue de Don César de Bazan, qui s'est pendant dans la pièce, qui est l'autre personnage, un peu moins important qu'Henri Blesse, mais... son cousin, en fait, dans la pièce de Victor Hugo, Ruy Blas, il s'appelle Don César de Bazan, et au quatrième acte, effectivement, il arrive en disant « Tant pis, c'est moi !» Et voilà, j'ai repris ce premier vers de Victor Hugo, car il était très approprié avec ce spectacle, puisque ce personnage de Don César de Bazan était un personnage très important pour moi. C'est vraiment celui qui m'a permis de... qui m'a mis au monde comme acteur, on va dire.
Oui, voilà. Donc c'est Tant pis, c'est moi, au théâtre de la Scala à Paris jusqu'à fin décembre. Revenons un tout petit peu sur votre carrière, justement. Alors on vous a vu il y a 2 ans, hein, on se rappelle du Visiteur, hein, d'Éric Emmanuel, oui. Schmitt au théâtre Rive Gauche. De toute façon, vous avez joué dans une trentaine de pièces avec vous avez commencé en 70, 75, hein, le théâtre Robert Rossen. 76
75, oui, avec Robert Hossein. Ouais,
avec Robert Hossein. Ouais. Bon, vos rôles sont tellement multiples. Vous avez joué avec Jean-Louis Barrault, Roger Hanin, Maurice Béjart, Stéphane Meldeg. Cinéma aussi. Alors, vous avez une petite préférence sur scène, cinéma, théâtre?
Bah écoutez, comme c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai été aussi bien comme acteur au cinéma que réalisateur au cinéma, comédien au théâtre, metteur en scène au théâtre. On va dire que le théâtre, c'est l'endroit de la liberté pour l'acteur. C'est-à-dire qu'il a 5 ou 6 semaines de répétition sous la férule d'un metteur en scène, mais à partir du moment où le spectacle est créé, il est clos comme une chenille et devient un papillon sur scène, l'acteur. Il est dans un cadre, mais il est libre. On va dire qu'au cinéma ou à la télévision, on est dans les mains d'un metteur en scène, d'un réalisateur. Voilà. Et là, le métier de réalisateur, le travail de réalisateur est passionnant. C'est un énorme travail. Et celui d'acteur, c'est aussi du travail, mais c'est beaucoup plus ludique, avec moins de responsabilité, on va dire. Le réalisateur a la responsabilité de l'ensemble. Il doit rendre un film avec le temps qu'on lui donne et l'argent qu'on lui donne. Voilà. Alors qu'un acteur, eh bien, il vient, il fait sa partition, mais à la fois, il est sous le contrôle du réalisateur. Oui, oui. C'est vrai.
En cinéma, vous avez réalisé une petite dizaine de films, hein, entre 5 et 10?
Non, pas autant. Non, j'ai fait 3 films au cinéma. J'ai fait de la télévision, j'ai fait une série. J'ai fait aussi une fiction théâtrale récemment, il y a 2 ans, qui est encore un genre un peu différent pour France 2, qui s'appelait Amis d'enfance. Voilà. Donc j'ai touché un petit peu pas mal à la réalisation. Oui.
Et en projet, alors, vous avez une écriture de scénario?
Non, pas pour l'instant. J'ai des scénarios qui attendent tranquillement le bon vouloir d'une production. Ils sont écrits. j'ai une pièce de théâtre écrite, j'ai un scénario écrit, et peut-être que jusqu'à présent, j'ai pas réussi à faire bouger les choses. Mais vous savez, les projets, c'est comme ça. Ils ont un moment, ils ont une maturité. Ils se déclenchent quand ils doivent se déclencher. J'ai pas dit mon dernier mot, peut-être que ça va se déclencher.
Vous jouez toujours dans la série TF1 Flashback?
Alors, il y a une première saison qui a été faite, oui, qui va sortir là début janvier, je crois. Et puis on verra bien ce que ça donne, s'il y a une suite, on verra.
Très bien. Alors c'est Tant pis, c'est moi, seul en scène de Sam Karman, je le disais tout à l'heure à la Scala. Ah oui, j'avais noté dans un petit coin de vous. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression d'être dans l'ambiance de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Je sais pas si vous l'aviez vu, joué par Bruno Abraham Kremer. J'ai ressenti cet univers des années d'enfance en 1960, ou bien même le livre La vie devant soi de Romain Gary.
Oui, voilà. Oui, bien sûr, mais oui. C'est comme si, moi mon métier c'est d'être acteur. J'aurais pu me contenter, d'ailleurs il est édité, le texte Tant pis c'est moi, il est édité à l'avant-scène. C'est un texte qui est écrit donc avec Denis Lachaud, comme je vous l'ai dit, et qui est terriblement précis dans son écriture. Voilà, c'est pas un stand-up, c'est vraiment une pièce de théâtre. J'en suis le héros, on va dire, mais j'en suis aussi l'interprète.
Ouais, vous êtes là devant nous et on boit vos paroles. Ça, il faut le dire, vous êtes un excellent acteur. Excusez-moi du cliché, mais c'est vrai. Donc voilà, on passe un bon moment. Sam Karman, on cite peut-être tous vos collaborateurs. Donc le texte a été écrit par vous-même avec Denis Lachaud. Ouais. Collaboration artistique, on le disait tout à l'heure, Anne Poirier-Busson. Lumière, oui. Pierre Mille.
Oui, exactement. Qui a la création lumière, oui, Pierre Mille. La création sonore, c'est Steven Gouty. Et ce sont des musiques de Pierre Adenau, qui a été le compositeur des films que j'ai faits, des films et des téléfilms que j'ai faits. J'ai toujours travaillé en collaboration avec lui pour tout ce qui a été audiovisuel, cinéma et audiovisuel.
Et les costumes, Julia
Allègre. Julia Allègre. Bien sûr.
C'est tant pis, c'est moi, à la Scala de Paris jusqu'à fin décembre. Et c'est donc le samedi demain à 17h15 et le dimanche à 19h15. Vous savez s'il reste quelques places?
Il reste des places, pas de problème.
Très bien. Merci beaucoup, Sam Karman. Merci.
Merci à vous. Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier. Entre le fromage et le dessert, comme mon cadavre à la mer.
Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre.
Sous mes doigts,
sous mes doigts, je te regarde et je pleure juste pour rien. Comme ça.
Sans raison, je pleure, à gros bouillon, je pleure, comme devant un oignon, je pleure. Arrêtons là, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la.
Elle m'a dit, je crois que je ne t'aime plus. Relève-toi, relève-toi, ne te mouche pas dans ma robe, pas cette fois, relève-toi. Tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang était froid.
Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi.
La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a pété dans l'air comme un vieux coup de tonnerre.
Je crois que je ne t'aime plus, je te regarde, je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens.
Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre, c'est comme ça.
La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la.
Je n'ai pas trouvé le courage par la fenêtre de me jeter. Mourir d'amour n'est plus de mon âge. Elle m'a dit.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. On vient d'entendre Elle m'a dit, donc Kali avec Calogero. Alors Kali sera en concert mardi 5 novembre à l'Espace Carpo de Courbevoie pour un concert tout à fait unique. En fait, c'est à l'occasion de ses 20 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, son album « L'amour parfait ». Kali, ce chanteur Kali, au succès incroyable. Il a vendu 500 000 albums en 2004. C'est quand le bonheur, elle m'a dit. Eh bien, il fête les 20 ans de cet album. Et il a donc enregistré un superbe album avec 15 interprètes. Alors voilà, il y a... Francis Cabrel pour C'est quand le bonheur, on vient d'entendre là, elle m'a dit, il chante avec Calogero, il chante également avec Charlie Couture, avec Adamo. C'est toujours le matin, cette très belle chanson de Kali, il l'interprète avec Adamo, avec Bernard Lavillier, il interprète différent, L'amour parfait avec un jazzman, Peter Kingsbury, il chante également avec Pascal Obispo. Voilà, donc c'est son CD, 20 ans d'amour parfait revu, avec 13 interprètes, 13 musiciens qu'il aime beaucoup. Et ce CD sort, cet album sort ces jours-ci. Kali, 20 ans d'amour parfait. Je vous donne quand même les musiciens, parce que ça vaut le détour, les musiciens avec lesquels il a enregistré cet album. Au clavier, le fameux Steve Naïve. Alors Steve Naïve, c'est le pianiste de Sting, Elvis Costello, Bachung et j'en passe. Voilà. Et à la régie, Moon Leon. Donc ça, c'est la sortie de son album. Hein. Courez, courez l'acheter, 20 ans d'amour parfait. Et la tournée, donc je vous en parlais tout à l'heure. Il sera donc mardi 5 novembre, dans 3 jours, à l'Espace Carpeau de Courbevoie. Et je dois vous dire que j'ai 2 places à faire gagner. Chers auditeurs, si ça vous intéresse, 2 places gratuites pour le concert de Kali à Courbevoie, notez bien ce numéro de téléphone, vous envoyez un texto, un SMS au 07 64 36 63 71. Je répète, 07 64 36 63 71, 2 places pour Kali.
I'll take my chances, on to burn you all.
Nous venons d'entendre Crook and Thieves de David Shaw and the Beat, dont le dernier album vient de sortir. Alors, cet album s'appelle Love Songs with a Kick, volume 2 et 3. Alors, David Shaw, chers auditeurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un musicien atypique. Il est entre le techno, la pop, le synthé pop, le post-punk. Il a été façonné par les cultures punk, rave, garage à Manchester hein, dans les années 90. C'est un musicien qui a 46 ans. Et donc il avait sorti son Love Songs with a Kick en 2020. C'était le volume 1. Et là, il revient avec le 2 et le 3. Donc, ils vont sortir en formule digitale, mais également en double album vinyle le 8 novembre, là, tout bientôt. Moi, j'adore cette musique. Sa voix, je dirais un peu aux accents de glam glacé. Voilà, il explore des territoires nouveaux hein, avec... un peu des ambiances d'hallucinations, des rêves hypnotiques, des climats suspendus. Je le disais tout à l'heure, hein, il est entre le punk, le wave, le pop cosmique. Voilà, je vous engage vraiment à écouter ces albums et surtout voilà, acheter ce dernier album David Shaw and the Beat. Love Songs with a Kick, volume 2 et 3. Eh bien voilà, chers auditeurs, je vais vous laisser. Donc, c'était toute la culture que j'aime sur IDFM Radio. Et vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure Attineau. D'ici là, je vous souhaite de très bons spectacles et de belles découvertes. Bonsoir.